Bonjour et bon vendredi, c'est le 22 septembre 2017. Est-ce que vous sentez que l'automne s'en vient? Non, hein? Et oui, il sera à 16h02. Et puis on annonce en fin de semaine, avec Humidex, j'ai entendu des 37 pour dimanche, ça sera pas froid. Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Alors l'automne s'en vient, êtes-vous heureux de ça?
Oh, oui.
Oui, mais on ne le sent pas encore. Hein?
Non.
C'est un automne fantomatique.
Ben, ce matin, en s'en venant...
Ah oui, vous êtes venu en scooter.
C'est assez frisqué, là, mais c'est pas moi qui vais me plaindre.
Non, absolument pas. Alors on vous écoute, pas vous plaindre, mais faire la chronique éphémérite.
22 septembre, il reste ainsi 100 jours avant 2018. Alors c'est le temps d'en profiter pour ceux qui... Et c'est aussi une date possible pour, comme vous venez de le mentionner, l'équinoxe de septembre qui marque le début de l'automne dans l'hémisphère nord et le début du printemps dans l'hémisphère sud. Et aujourd'hui, nous fêtons les Maurice et les Morissette.
Ah oui?
Oui. Alors, que s'est-il passé un 22 septembre? En 1851, la capitale du Canada est déplacée de Toronto à Québec. En 1862, suivant la victoire de l'Union à la sanglante bataille d'Antietam, Abraham Lincoln proclame que les esclaves vivant dans les États rebelles seront libres le 1er janvier suivant. En 1929, ouverture du pont de Québec à la circulation routière. En 1955, lancement en Grande-Bretagne d'une télévision privée où la première réclame vend quoi? Du dentifrice.
Ah, j'allais dire des cigarettes.
Non. En 1967, avec 42 073 561 visiteurs, Expo 67 à Montréal améliore la marque de l'exposition de Bruxelles de 1958.
Vous avez parlé de millions, là, hein?
Oui, oui, des millions. Oui, oui, 43 073 561 et visiteurs. Ça fait du monde.
Impressionnant,
ça.
Oui.
Exact. 1971, Bernard Lortie est déclaré coupable de l'enlèvement du ministre Pierre Laporte en octobre 1970 à Saint-Lambert. 1973, Henry Kissinger, né en Bavière, devient le premier Américain naturalisé à devenir secrétaire d'État. 1985, le premier ministre français, Laurent Fabius, admet que des agents français ont coulé un navire de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. 1988, le gouvernement Mulroney présente les excuses du Canada aux gens d'origine japonaise internés durant la guerre 39-45. Atteint d'un cancer, l'Australien Bob Dent, en 1996, est le premier bénéficiaire d'une loi autorisant l'aide au suicide. C'est en 96. Toujours en 22 septembre 1999, l'administration Clinton, je mets des M là où il y a des N aujourd'hui. L'administration Clinton entame une poursuite en dommages contre les cigarettiers américains. Et en 2000, aux États-Unis, Kraft rappelle des épiceries des coquilles à tacos qui contiennent du maïs OGM, le Starlink. Et pour ce qui est des naissances du 22 septembre 1929, le compositeur Serge Garand à Québec est né en 1929 et décédé en 1986. Ségolène Royal, femme politique française, nommée plusieurs fois ministre, est née en 1953. Et un 22 septembre 1989, naissait Béatrice Picard, dite Cœur de pirate, une chanteuse que nous connaissons ici. Et pour ce qui est des
Béatrice Picard? Béatrice Martin, vous voulez dire? Vous vous êtes mélangée?
Je pense que je l'ai croisée dans les studios tantôt.
Oui, puis voilà. C'est vrai, Béatrice Picard qui vient lire
faire
des livres.
Lectures à tous les vendredis. 2007, désolé. Béatrice, il faut que je me la sorte de la tête. Le 22 septembre 2007, le mime français Marcel Marceau décédait, lui qui était né en 1923. En 1994, Forrest Sagendorf, le créateur de Popeye, qui était né en 1915, est décédé en 1900. Vous avez des problèmes avec votre chaise.
Excusez-moi,
en 1994.
Oui, les accoudoirs n'étaient pas ajustés.
Non.
D'où le bruit.
Bon. Et 1996, Ludmilla Tchiariev, fondatrice des Grands Ballets canadiens, elle qui était née en 1924, est décédée en 1996. Voilà pour les éphémérides d'aujourd'hui.
Bonne fin d'été et bon automne, cher
Merci,
Mathieu.
Aussi.
Et à tous les auditeurs. À la une de la presse, cadavre d'un Québécois retrouvé au Pérou. Pourquoi est-il mort? Le corps d'un producteur québécois de cacao a été découvert dans un fossé au Pérou, à plus de 1000 km de Lima, la capitale. Deux autres Québécois ont comparu hier devant la justice péruvienne relativement à ce meurtre. La chronique de Marie-Claude Lortie, La ferme, point d'exclamation, peut-on faire plus de place aux petits producteurs, le plaidoyer de Marc Séguin. La chronique d'Yves Boisvert, L'abus de droit espagnol. Pause chic, tendance, l'automne sera dans le rouge. La nouvelle saison est officiellement arrivée, guide d'achat. Élections municipales 2017, c'est aujourd'hui que débute officiellement dans l'ensemble du Québec la campagne en vue des élections municipales du 5 novembre. À Montréal, un affrontement d'importance se dessine entre Denis Coderre et la chef de Projet Montréal, Valérie Plante. La presse présente aujourd'hui les défis qui attendent les deux principaux partis à briguer la mairie. Coderre, à la recherche d'une majorité absolue, Pierre-André Normandin qui signe l'article 43. Voilà le nombre à viser le 5 novembre pour Denis Coderre, qui tentera d'accentuer sa majorité au conseil municipal afin d'avoir les coudées franches dans la réorganisation de la ville de Montréal entreprise il y a 4 ans. Pour la politicologue Danielle Pilette de l'UQAM, la question n'est pas tant de déterminer si Denis Coderre sera réélu, mais plutôt combien de candidats de son parti seront élus avec lui à l'hôtel de ville. En détenant plus des 2/3 des 65 sièges en jeu au conseil municipal, Équipe Coderre pourrait imposer plus facilement aux 19 arrondissements la centralisation des services. Je suis convaincue qu'il en rêve pour pouvoir réformer les pouvoirs des arrondissements. Il ambitionne de mettre fin au petit royaume, dit Daniel Pilette. La réélection de Denis Coderre fait peu de doute pour les spécialistes consultés par la presse. Si on fait juste regarder les statistiques, il a de très fortes chances d'être réélu, note Laurence Bérère, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Lors des deux dernières élections, le taux de réélection des maires sortant des grandes villes était de 80 %. Les autres, 20 %. Ils sont souvent battus parce qu'il y a une crise, un scandale ou s'il y a usure du pouvoir, poursuit la politicologue. Projet Montréal devra sortir des arrondissements centraux. Deux défis se poseront à Projet Montréal lors des élections, faire connaître sa candidate à la mairie, Valérie Plante, et faire élire des candidats à l'extérieur des arrondissements centraux. Les spécialistes consultés par la presse estiment que la barre est haut placée pour Projet Montréal afin de prendre la mairie le 5 novembre, bien que rien ne soit impossible. Ils ont vraiment un enjeu important qui est de faire connaître leur chef, résume Laurence Bérère, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. La politicologue estime que le parti semble d'ailleurs l'avoir bien compris, ayant entrepris une campagne très musclée depuis la mi-août pour mieux faire connaître Valérie Plante. À ce titre, la professeure Caroline Patsias de l'UQAM estime que Projet Montréal a visé juste avec sa publicité décrivant sa candidate comme l'homme de la situation, ce qui a fait beaucoup parler d'elle. Ça a obligé Denis Coderre à se positionner. Il a par la suite recruté plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes, et pour moi, c'est une réponse implicite, évalue la politicologue. Les dates clés de l'élection, 22 septembre, aujourd'hui même, début de la période électorale d'une durée de 45 jours, c'est à partir de ce moment que les partis peuvent obtenir un remboursement pour leurs dépenses. Les candidats peuvent faire campagne avant cette date, mais leurs dépenses ne sont pas remboursables. 25 septembre, la dernière séance du Conseil municipal de Montréal avant les élections aura lieu lundi. Après cette date, seul le comité exécutif continuera à siéger. 6 octobre, date limite pour poser sa candidature. Si un seul candidat se présente à un poste, il sera automatiquement déclaré élu à cette date. 28 octobre, début du vote itinérant, suivi les 29 et 30 du vote par anticipation. 5 novembre, jour du vote. Dans la province, 1105, c'est le nombre de municipalités en élection le 5 novembre. We'll be right back. légalisation du cannabis, Philippe Couillard a pratiquement écarté l'idée de fixer à 21 ans l'âge minimal pour consommer du cannabis hier. Il a fait valoir que les jeunes adultes auraient accès à la substance peu importe le seuil que fixera son gouvernement. Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le premier ministre a exprimé sans détour son désaccord avec le chef caquiste, François Legault, qui propose de fixer l'âge de consommation à 21 ans. Est-ce qu'il pense sérieusement qu'il va empêcher de quelque façon les jeunes de 18 à 21 ans de fumer du pot? « Allô, la terre », a ironisé M. Couillard. « Je pense qu'ils en fument déjà, puis ils vont continuer à en fumer », a-t-il ajouté. Au contraire, ce qu'on veut faire, c'est empêcher le crime organisé puis le marché noir de profiter de la situation. M. Couillard a rappelé que son gouvernement présenterait sous peu une loi cadre pour préparer la légalisation du cannabis par Ottawa. Nicolas Boudreau, cet homme de 52 ans qui avait tenté de se suicider en plein tribunal mercredi au Palais de justice de Québec, est arrivé à ses fins. Le service de police de la Ville de Québec confirme que l'homme a finalement succombé après son transport à l'hôpital. Mercredi, lorsque le juge Christian Boulet de la Cour du Québec l'a condamné à 6 mois de prison pour une affaire de pornographie juvénile, Nicolas Boudreau a avalé une substance liquide non identifiée. Les constables spéciaux étaient intervenus d'abord pour le maîtriser, puis pour effectuer des manœuvres de réanimation. Nicolas Boudreau, ex-professeur de chimie du cégep de Limoilou, avait reconnu sa culpabilité en avril 2016 à 2 des 3 accusations qui pesaient contre lui, soit possession de pornographie juvénile et avoir accédé à de la pornographie juvénile. Il était également accusé d'avoir produit et diffusé de la pornographie juvénile. Des personnalités connues du public montréalais ont pris part à l'événement Camelot d'un jour, organisé hier dans plusieurs municipalités du Québec. Ces personnalités, dont Eddie King, Monique Proulx et Philippe Schnob, ont vendu le magazine L'Itinéraire aux passants dans plus de 30 points de vente à Montréal, Laval, Longueuil, Sutton, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Des joueurs des Carabins de l'Université de Montréal ont également participé à l'événement. C'est la 4e fois que le magazine L'Itinéraire organise Camelot d'un jour. La Société de transport de Montréal va accélérer le programme d'électrification de son parc d'autobus en faisant l'acquisition de 40 véhicules entièrement électriques de taille, de modèle ou de fonctionnement différents. Les premiers sont attendus en 2019. La STM fera notamment l'acquisition de 30 autobus de taille standard, soit 40 pieds, 12 mètres, à recharge lente, dont l'alimentation électrique sera assurée au garage pendant la nuit, plutôt que pendant les heures de service. Selon son dernier plan stratégique, la STM projette de ne plus acheter que des autobus 100 % électriques à compter de 2025. Le maire et chef de Génération Terrebonne, Stéphane Berthe, accuse son adversaire Marc-André Plante, candidat à la mairie sous la bannière d'Alliance démocratique Terrebonne, de créer de toutes pièces un climat de suspicion en jouant à la victime. M. Berthe réagissait à la publication hier dans la presse d'un article concernant des gestes d'intimidation qui auraient visé des membres de l'équipe de M. Plante et une candidate indépendante, Hélène Michaud, au cours des dernières semaines à Terrebonne. Selon M. Berthe, qui juge avoir été visé par les dénonciations récentes de M. Plante à la police, il s'agit de tactiques malhonnêtes pour le discréditer. Des plaintes ont été déposées auprès de la police municipale et de l'unité permanente anticorruption. Ni le parti ADT, Alliance démocratique à Terrebonne, ni Mme Michaud n'a accusé M. Berthe d'être à l'origine de ces méfaits.
Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux. Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de ad hoc. Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour. Pourvu qu'elle digère bien les huîtres. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin. Pourvu qu'on s'échange nos bouquins. Pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage. Pourvu qu'elle parle à mes copains pour que ça devienne ensuite les siens. Pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le prest. Pourvu qu'elle vote pas pour la peste. Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte. Pourvu qu'elle ait l'alarme facile. Pourvu que ce soit une cinéphile. Pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser. Les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle. Qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins. C'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon.
La chanson s'appelle « Pourvu » et le chanteur s'appelle Gauvin Serze.
À la une du Devoir, des lits, des lits et des lits, Montréal peut dormir en paix. Les Montréalais ont pu faire une sieste au soleil jeudi, allongé dans l'un des 40 lits installés sur l'esplanade de la place Ville-Marie en face du Fairmont Lorraine-Élisabeth. Une façon de souligner la Journée internationale de la paix, mais aussi un clin d'œil au Bed-In organisé en 1969 par Yoko Ono et John Lennon, dans la suite 1742 du prestigieux hôtel. Sur les draps des lits ont été imprimées les œuvres de 40 artistes retenus lors du concours Posters for Peace, organisé par Sid Lee Collective et Massive Art au mois d'août dernier. Milieu familial, Québec veut mettre de l'ordre dans les garderies. Le ministère de la Famille va serrer la vis à certains services de garde et tenter de débusquer les tricheurs. Culture, Québec envisage de taxer Netflix seul. Le ministre de la Culture dit être prêt à contrer l'inaction d'Ottawa. Élection, les deux Allemagnes. Pour la première fois depuis 1945, l'extrême droite devrait entrer au Bundestag. Des élections générales ont lieu dimanche en Allemagne où les sondages prédisent un quatrième mandat à la chancelière Angela Merkel au pouvoir depuis 2005. Dans le deuxième texte d'une série, notre correspondant Christian Rioux se penche sur la présence prochaine de l'extrême droite au Bundestag. Danser, c'est plaît. Les grands ballets devront faire leur deuil de leur campagne de promotion de Stabat Mater dans le métro, la STM ayant rejeté l'affiche du spectacle. ONU, Trudeau expose le côté sombre du pays. Catalogne, l'épreuve de force se poursuit. Et Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette, le ghetto dans le ghetto. Si Ottawa ne bouge pas, Québec le fera. Irrité par les signaux qu'il reçoit de la capitale fédérale, le ministre québécois de la Culture se dit prêt à taxer Netflix à sa mesure, soit en obligeant la perception de la TVQ sur les abonnements de ce type de services immatériels. Sur le principe d'agir seul, oui, on peut et on est prêt à le faire, a affirmé Luc Fortin en entretien avec Le Devoir jeudi. La chasse aux services de garde illégaux en milieu familial est ouverte. Le ministère de la Famille et Revenu Québec ont entrepris de croiser leurs fichiers dans le but de mieux découvrir les exploitants du service de services de garde, a appris Le Devoir. Cette stratégie vise à aider les inspecteurs du ministère de la Famille à détecter les garderies en milieu familial qui accueillent plus d'enfants que ce qui est permis par la loi. Tout service de garde en milieu familial qui accueille plus de 6 enfants doit avoir un permis et une éducatrice supplémentaire. La loi prévoit aussi un maximum de 9 clients en milieu familial. Or, ces garderies sont souvent exploitées sous l'écran radar des autorités sans permis dans des sous-sols anonymes. Le gouvernement ignore combien il existe de ces services de garde non régis ou carrément illégaux. Les fichiers de toutes les garderies qui donnent des reçus pour frais de garde à Revenu Québec seront utiles pour la brigade de 47 inspecteurs du ministère de la Famille, indique-t-on. En croisant ces fichiers avec leur propre base de données de garderies accréditées, ils sauront à quelle porte aller frapper pour découvrir d'éventuelles garderies illégales. Revenu Québec collabore actuellement avec le ministère de la Famille, indique Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec. Le gouvernement veut modifier la loi sur l'administration fiscale pour permettre le partage de renseignements entre Revenu Québec et le ministère de la Famille. Le ministère des Finances travaille aussi à ce programme. Enquête sur les femmes autochtones, les explications des commissaires déçoivent. C'était la première occasion pour les commissaires de l'enquête sur les femmes autochtones d'apaiser les inquiétudes des élus fédéraux qui voient aller leurs travaux sous le feu des critiques. Mais les réponses offertes jeudi ont profondément déçu les partis d'opposition. L'été a été difficile pour les commissaires de la Commission d'enquête nationale. Premières Nations et familles de disparus ont carrément réclamé leur licenciement pour reprendre l'enquête du début. Invités en comité parlementaire à faire le point sur leur travail, les commissaires ont réitéré qu'il leur avait fallu du temps pour démarrer, en raison notamment de délais administratifs. La bonne nouvelle est que malgré les problèmes, on est sur la bonne voie, a assuré la commissaire en chef Marion Boulaire. Le député néo-démocrate Roméo Saganache n'était cependant pas rassuré à sa sortie du comité. « Je suis aussi confus qu'avant. » Je n'ai pas entendu de plan très, très clair pour avancer à partir d'aujourd'hui, a déploré l'élu CRI, qui se demande aussi pourquoi la Commission entend réclamer que soit prolongé son mandat de 2 ans. Les commissaires martèlent que tous seront rassurés en voyant démarrer les audiences publiques la semaine prochaine en Colombie-Britannique. Les commissaires déposeront aussi un rapport intérimaire en novembre, tirant des leçons d'une centaine de rapports et de 1200 recommandations épluchées depuis 1 an. Leur mandat doit normalement se terminer fin 2018. L'ingénieur Danny Moreau du groupe SM a été relevé de ses fonctions de certificateur indépendant sur le chantier de l'échangeur Turco, a indiqué jeudi le ministre des Transports Laurent Lessard. M. Moreau est l'un des 8 individus arrêtés mardi par l'unité permanente anticorruption pour sa participation alléguée à un système de partage des contrats à Montréal. Jeudi, le député caquiste Éric Kerr a rappelé que l'ingénieur Michel Lalonde avait présenté Danny Moreau comme l'un de ses partenaires de la collusion chez Groupe SM. Cette entreprise a tout de même obtenu son accréditation de l'Autorité des marchés financiers afin de s'assurer de sa probité, a répondu le ministre. De son côté, l'Association professionnelle des ingénieurs du Québec a réclamé qu'une enquête soit menée par le vérificateur général à ce sujet. Une vaste majorité de proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer se dit favorable à l'idée d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Actuellement, même si une personne a rédigé des directives anticipées à cet effet, cela n'est pas permis. La Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer a dévoilé jeudi les résultats d'une consultation menée auprès de 306 proches aidants. Il en ressort que 91 % ont dit appuyer l'idée d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes qui seraient rendues au stade terminal avec signe de détresse et si elles avaient énoncé des directives par écrit auparavant. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada conclut que des fonctionnaires fédéraux ont subi des atteintes à leur vie privée dans le système de paie Phoenix à cause de tests inadéquats, d'erreurs de codage et d'une insuffisance au chapitre des mécanismes de surveillance et de contrôle. Le système Phoenix connaît des ratés majeurs depuis sa mise en œuvre au début de 2016. Certains employés fédéraux ont été trop payés, d'autres ont touché moins que ce qu'ils attendaient, et d'autres encore n'ont rien reçu, parfois pendant des semaines. Dans son rapport annuel déposé jeudi, le commissaire Daniel Therrien indique qu'à la suite de 3 plaintes de fonctionnaires, son bureau avait décelé au moins 11 cas d'atteinte à la vie privée. Et Montréal a maintenant son statut de métropole du Québec. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité jeudi le projet de loi numéro 121 qui accorde de nouveaux pouvoirs et davantage d'autonomie à la ville, notamment en ce qui concerne l'économie, l'habitation et le patrimoine.
Ami de ce chic au chancelant avant de dormir.
Yann Perrot et sa chanson « L'arbre dans la ville ».
À la une du Journal de Montréal de ce vendredi 22 septembre 2017, des voisins invoquent la pollution, les fours à bagels menacés. Deux salles d'opération fermées au CUSM, pénurie d'infirmières. Le Québec et la Catalogne, les chroniques de José Legault et Mario Dumont. Celle de José Legault s'intitule « Réaction mollassonne » et celle de Dumont « Un peu de hauteur, messieurs Couillard et Trudeau ». Pollution. Les fours à bagels leur gâchent la vie. Leurs fours à bois font de Fairmont Bagel et de Saint-Viateur Bagel des institutions à Montréal, mais ils sont désormais menacés par des voisins qui se plaignent de leur fumée toxique. Un groupe de citoyens ira lundi devant le conseil municipal pour demander l'application du règlement municipal sur l'assainissement de l'air et, s'il le faut, faire interdire ces fours à bois. Les deux enseignes historiques du Myland ont fait des efforts dernièrement pour réduire les dégagements de leurs cheminées, mais leurs voisins ne sont toujours pas satisfaits. François Grenier est le premier à s'être plaint de la nuisance. Depuis sa première crise d'asthme en 1997, le résident de la rue Clark a porté plainte chaque année à la ville pour dénoncer la fumée qui sort nuit et jour, 365 jours sur 360, de Fairmont Bagel, installé dans le Myland depuis 1951. Quand je me suis installée il y a 25 ans, il y avait une bonne odeur de boulangerie dans le quartier, se souvient le Montréalais. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie qui alimente des Costco. Comme plusieurs résidents du secteur, M. Grenier garde ses fenêtres fermées quand le vent souffle dans sa direction, sinon la fumée entre et la suie se dépose sur les meubles. M. Grenier est d'autant plus en colère d'y être exposé à cette fumée que la ville a adopté dès 1998 un règlement sur l'assainissement de l'air. Des mesures ont d'ailleurs été prises contre les poêles à bois résidentiels qui seront interdits à Montréal en 2018. En dépit des plaintes et des tests de la Ville de Montréal qui forcent le commerce à arrêter sa production, la boulangerie Saint-Viateur Bagel s'oppose catégoriquement à changer de méthode de cuisson. La cuisson au bois, c'est notre raison d'être, notre tradition. Ça donne un goût et un cachet à nos bagels, explique Nicolo Morena, l'un des trois fils du propriétaire de Saint-Viateur Bagel, Joe Morena. M. Morena assure que la solution approche puisqu'un épurateur sera installé d'ici la fin de l'année sur la cheminée de sa boutique située au 158 rue Saint-Viateur. Si ça fonctionne, on l'installera dans tous nos lieux de production, dit-il. Asphalte d'élection dans Hochelaga. La couche d'asphalte semble incomplète sur des rues de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On semble avoir contourné les voitures stationnées en bordure de rue. Si cela peut sembler curieux, l'arrondissement assure que c'est voulu et que cette situation se retrouve sur une vingtaine de rues de l'arrondissement. C'est une mesure intermédiaire palliative afin de redonner une surface de rue digne de ce nom. En attendant de refaire toute la rue au complet, indique le maire de l'arrondissement Réal Ménard. L'arrondissement compte refaire la surface de la rue d'ici 3 ou 4 ans. En attendant, le maire veut éviter aux automobilistes de rouler sur des nids de poules tout en économisant sur les coûts. C'est assez clair pour la population en ce moment que cette opération est de l'asphalte d'élection, affirme pour sa part la chef de projet Montréal, Valérie Plante, alors que la campagne électorale commence officiellement vendredi, aujourd'hui. Réal Ménard précise que cette méthode est utilisée depuis 3 ans. pénurie d'infirmières au bloc opératoire du CUSM. Deux salles sur un total de 12 sont fermées depuis le début du mois de septembre. Une pénurie d'infirmières au bloc opératoire du CUSM force la fermeture de deux salles d'opération cet automne. Une décision qui risque encore de prolonger l'attente pour des patients, déplore le syndicat. Patients en attente d'une chirurgie au Québec, cataracte 18 188, hanche 2686, genou 4454, chirurgie d'un jour 53 285 patients en attente, chirurgie avec hospitalisation 16 107, chirurgie bariatrique 2355. On récolte ce qu'on a semé, réagit Denise Joseph, présidente du syndicat local des infirmières du Centre universitaire de santé McGill. Les listes d'attente étaient déjà plus longues en cancer et en cardiologie. Elles vont rallonger, dit-elle. C'est ça l'impact. C'est directement lié. Depuis le 4 septembre dernier, deux salles d'opération de l'hôpital Royal Victoria, site Glen, sont fermées. La direction s'attend à ce que la situation soit rétablie d'ici la fin 2017. La fermeture des salles fait suite au départ récent de plusieurs infirmières du bloc opératoire, parties en congé de maladie et de maternité. Dans ce secteur, une employée enceinte est aussitôt retirée de son poste en raison des risques pour le fœtus. Un minimum de 6 infirmières serait nécessaire pour le bon roulement des deux salles fermées, mais la direction en recherche une dizaine. Une femme de la Grande-Bretagne a donné naissance à son 20e enfant lundi au Royal Lancaster Infirmary et cette fois, elle jure que son 11e garçon sera le dernier. Sue Radford n'a eu besoin que de quelques poussées pour tenir dans ses bras Archie, son nouveau-né. Sue, 42 ans, et Noël Radford, 46 ans, ont tous les deux été placés en adoption après leur naissance. « Nous avions l'intention d'avoir 3 enfants », a affirmé Noël. On a aimé être entouré d'enfants, nous avons tout simplement décidé de continuer. Ils ont eu leur premier enfant, Chris, en 1989, alors que Mme Radford n'avait que 14 ans. Pendant la 9e grossesse de Sue, Noël a subi une vasectomie. Cependant, ils ont décidé d'avoir d'autres enfants et il a subi l'opération inverse qui, selon lui, est encore plus douloureuse. Le ministre Laurent Lessard pourrait augmenter le montant des amendes remises aux automobilistes qui envoient des textos au volant dans l'objectif de renforcer l'effet dissuasif. L'Ontario a annoncé mercredi qu'elle comptait présenter un projet de loi pour sévir davantage contre les conducteurs faisant preuve de négligence ou de distraction au volant. Par exemple, l'utilisation du cellulaire au volant pourrait être punissable d'amendes allant de 500 $ à 3000 $ selon qu'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive. Au Québec, ce manquement entraîne une sanction de 80 $ à 100 $ en plus de la perte de 4 points d'inaptitude. Appelé à commenter cette initiative ontarienne, le ministre des Transports a rappelé qu'il travaillait sur un nouveau code de la sécurité routière qui sera déposé au cours de la session parlementaire. Montréal rouvre ses jeux d'eau, mais pas Laval. Plusieurs jeux d'eau de Montréal rouvriront leur robinet en prévision de la canicule de cette fin de semaine. Presque tous les arrondissements ont confirmé qu'ils allongeront la saison d'au moins une de leurs installations. Il a été impossible de vérifier la situation de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ouvrira exceptionnellement les pataugeoires Nicolas-Tilmont et Jarry. En fin de semaine, une première pour l'arrondissement à cette période de l'année. Les arrondissements ferment habituellement leurs jeux d'eau, piscines et pataugeoires à la mi-septembre. Les Montréalais devront cependant se contenter des piscines intérieures pour une baignade de fin d'été. À Longueuil, les piscines extérieures resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Seulement, les jeux d'eau pourront rafraîchir les citoyens au cours des prochains jours. Si Environnement Canada émet un avis de chaleur accablante, on est toujours prêt. On a toujours un plan. Nos piscines sont toutefois fermées depuis la rentrée des classes et elles le resteront pour l'instant, dit Louis Pascal, sire, porte-parole de la ville de Longueuil. À Saint-Bruno de Montarville, l'administration entend par ailleurs miser sur les jeux d'eau pour donner un peu de répit à ses habitants accablés par la chaleur. Malgré la canicule, Laval ne prévoit pas non plus rouvrir ses piscines extérieures ni même ses jeux d'eau. La ville invite ses citoyens à fréquenter ses piscines intérieures.
C'est beau, ce roulement de tambour qui nous frôle la peau. C'est le son de la pluie sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau. J'ai envie de ta bouche, de cet orage tendre où nos corps se touchent, où nos désirs se répandent dans nos ruisseaux farouches. Oh, le goût de l'eau, roue coulante, miroitante en fine gouttelette sur le doux de ton ventre, balbutiante, délirante. Oh, l'eau. Le goût de l'eau, c'est la mémoire du ciel. Sur le bout de la langue, c'est un peu d'éternel. C'est le chant des bateaux, le vent qui les appelle. Oh, dans la soie des rivières, sous le sel de la mer, on perle vivante dans les crins de la terre et sous la nappe dormante de ce lac en hiver. Oh, le goût de l'eau, dans la transparence de l'aquarelle, quand elle coule sur le dos de l'arc-en-ciel, dans les mots des oiseaux, sur le bleu de leurs ailes. Oh, le goût de l'eau. C'est beau, ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la radio, ce sont des larmes d'ange sur le toit de l'auto. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, j'ai envie de toi, j'ai envie d'apprendre ce que je sais déjà, de me laisser couler jusqu'au creux de tes bras. Oh, le goût de l'eau, j'ai le goût de l'eau, que l'orage gronde, qu'une inverse de tendresse inonde le monde et que flotte notre amour sur les eaux profondes. Oh,
Michel Rivard, sa chanson, devinez-vous quoi?
Le goût de l'eau.
Le Le jour et la nuit ex aequo. Aujourd'hui, 22 septembre, à précisément 16h02, a lieu l'équinoxe automnal. Ce marqueur temporel et spatial détermine le début de l'automne dans l'hémisphère nord et celui du printemps dans l'hémisphère sud. Partout sur le globe aujourd'hui, le jour et la nuit seront pratiquement de la même durée. Près de 50 ans après le fameux Bed-in pour la paix organisé par Yoko Ono et John Lennon en 1969, le Fairmont Lorraine Elizabeth a dévoilé hier le nouveau design de la mythique suite 1742, située au 17e étage de l'hôtel du centre-ville. Pour souligner l'événement, la chambre peut être louée pour la modique somme, oui, de 1 969 $ la nuit. L'héritière milliardaire de L'Oréal est décédée à l'âge de 94 ans. Liliane Bettencourt, héritière du géant L'Oréal et femme la plus riche du monde, est décédée à 94 ans, laissant derrière elle un empire des cosmétiques, mais aussi le souvenir d'une retentissante saga judiciaire liée à des soupçons d'abus de faiblesse. Liliane Bettencourt est décédée cette nuit à son domicile. Elle aurait eu 95 ans le 21 octobre. « Ma mère est partie paisiblement », a écrit sa fille unique, Françoise Bettencourt Meyers, dans un communiqué publié hier. À la tête d'une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars par le magazine Forbes en 2017, Liliane Bettencourt occupait la 14e place des personnes les plus fortunées. C'était aussi la deuxième fortune française derrière le magnat du luxe et patron de LVMH, Bernard Arnault. Affaiblie par la maladie, placée sous tutelle, elle se tenait en retrait de la scène publique depuis 2012 quand elle avait quitté le conseil d'administration de L'Oréal et tout rôle dirigeant au sein du groupe. Plusieurs médecins avaient avancé en 2011 le diagnostic d'une démence mixte et d'une maladie d'Alzheimer à un stade modérément sévère. Au cours des 10 dernières années de sa vie, Liliane Bettencourt s'est retrouvée au centre d'une tentaculaire affaire judiciaire qui a défrayé la chronique et mis en lumière les déchirements au sein de sa famille. Le principal dossier de ce qui est devenu l'affaire Bettencourt portait sur un soupçon d'abus de faiblesse. Il débute avec la plainte fin 2007 de Françoise Bettencourt Meyers, soupçonnant le photographe François-Marie Bagné d'avoir profité de la vulnérabilité de sa mère pour obtenir des centaines de millions d'euros en dons. Chèques, œuvres d'art, donations, contrats d'assurance-vie. François-Marie Bagné, à qui la milliardaire vouait une grande affection, est condamné en appel en 2016 à 4 ans de prison avec sursis et à 375 000 euros, 552 000 en canadien, d'amende pour abus de faiblesse. Le gestionnaire de fortune et homme de confiance de la milliardaire, Patrice Demestre, est, lui, condamné à 30 mois de prison, dont 12 avec sursis et 250 000 euros, 360 000 $ canadiens d'amende. L'empire en chiffres. Richesse de Bettencourt, selon Forbes, 38 milliards. Premier groupe cosmétique mondial à travers 140 pays dans le monde. 473 brevets déposés. Nombre d'employés, 90 000, entre parenthèses 1300, à sa filiale canadienne. Née le 21 octobre 1922 à Paris, Liliane Bettencourt est élevée dans la rigueur chez les sœurs dominicaines. Sa mère, pianiste, meurt quand elle a 5 ans. 10 ans plus tard, elle fait ses premiers stages chez L'Oréal et se considère rapidement comme dépositaire de l'œuvre de son père, Eugène Schuller, fondateur de l'entreprise. Cet Alsacien fut l'un des dirigeants et le principal soutien financier de la Cagoule, organisation clandestine d'extrême droite dans les années 1930. Liliane voue un culte à ce père dévoué, mais très pris par ses affaires, qui a mis au point les premières teintures capillaires de synthèse. Elle épouse en 1950 André Bettencourt. L'histoire de cet homme avait croisé celle de François Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale, où, comme ce dernier, il entretient des relations ambiguës avec Vichy avant de rejoindre la Résistance. Le groupe, véritable empire des cosmétiques, commercialise aujourd'hui maquillage, crème et shampoing dans le monde entier pour un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars canadiens en 2016 et emploie près de 90 000 personnes dans le monde entier. Dans un communiqué, le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, a exprimé hier son immense tristesse. Le holding familial Tétis, présidé par Françoise Bettencourt-Meyers, mais dont sa mère, Liliane Bettencourt, conservait l'usufruit, est l'actionnaire majoritaire de L'Oréal avec 33,05% des parts au 31 décembre 2016. D'enfant. C'est une critique du film Les Rois mongols de Luc Picard de José Lapointe dans la presse d'aujourd'hui, automne 1970. Tout part en vrille dans la vie de Manon. Son père est gravement malade, sa mère est dépressive et la famille n'a plus d'argent. Son frère Mimi et elle sont hébergés chez leur oncle et leur tante et passent le temps avec leurs deux cousins, Denis et Martin. Alors que des politiciens se font enlever et que l'armée débarque à Montréal, Manon s'inquiète. Et si les services sociaux les envoyaient dans des familles d'accueil et qu'elle était séparée de son petit frère? S'inspirant de l'actualité, elle décide de prendre les grands moyens pour l'éviter, entraînant toute la bande de jeunes dans un enlèvement rocambolesque qui prendra des accents tragiques. Il y a beaucoup de belles choses dans ce quatrième film de Luc Picard qui avait entre les mains une histoire solide et qui lui a donné toute la place tout en imprimant sa marque. On comprend facilement ce que le réalisateur a aimé du roman de Nicole Bélanger, dont le long-métrage est adapté. On y trouve une charge politique, une époque effervescente, autant d'humour que d'émotion et surtout une voix forte, celle de Manon. Héroïne ducharmienne par excellence qui n'est pas sans rappeler le personnage de Charlotte Laurier dans Les Bons Débarras. Avec sa musique et sa reconstitution parfaite des années 70, Les Rois mongols nous plongent avec délectation dans un quartier populaire de Montréal. Mais si l'aspect politique est toujours présent et que la grande histoire s'imbrique à la petite, c'est le quatuor de jeunes qui en est le principal atout. Les quatre comédiens sont crédibles et portent le film sur leurs épaules. Milia Corbeil-Gauvreau donne à sa Manon regard de feu, hargne et sensibilité. Le petit Anthony Bouchard incarne un Mimi bouleversant de fragilité et ils forment ensemble un duo sidérant de vérité. Les frères Denis et Martin, joués par Alexis Gay et Henri Picard, ne manquent pas de charisme non plus et possèdent la même justesse. Même si les deux couples de parents ont une certaine consistance, les figures d'autorité, armée, police, services sociaux, en prennent ainsi pour leur rhume dans le regard de Manon et sa bande. Pourquoi grandir si c'est pour devenir adulte et idiot et briser ses promesses d'enfance? Après une première partie plus réaliste, mais qui s'étire un peu, on manque légèrement de punch et de rythme à l'image de ces jeunes désœuvrés. Le film prend vraiment son envol en deuxième partie lors d'une cavale un peu surréaliste et surtout très prenante qui sent la catastrophe. Cette montée dramatique tient le spectateur ému et en haleine jusqu'à la toute dernière scène dans une finale qui devrait bouleverser même les cœurs les plus secs. On le sait depuis l'audition, son premier film, Luc Picard n'a pas peur des émotions. Il réussit le coup encore cette fois-ci, mais peut-être mieux dosé, avec doigté, délicatesse et respect. Un vrai beau film par un réalisateur sensible et vraiment maître de ses moyens. Alors, la critique de la presse accorde au Roi mongol, le film de Luc Picard, 3,5 étoiles. Le film prend l'affiche aujourd'hui.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a boy.
like the other girls. Jenny Wren took wing, she could, and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Saw poverty breaking up a home, wounded warriors took a song away.
Son album Chaos and Creation in the Backyard, c'était Paul McCartney qui nous chantait Jenny Wren.
Actualité internationale, séisme au Mexique. 6 tentes sont plantées sur le trottoir, une femme âgée, un gilet rose sur ses frêles épaules, essuie ses larmes devant le panneau où sont inscrits les noms des personnes encore prisonnières d'un immeuble qui s'est effondré quand un terrible séisme a secoué Mexico. Voilà près de 48 heures qu'ils attendent et le compte à rebours se fait plus pressant. Mais les proches de ces disparus faisaient montre hier d'un espoir résolu. Il semble que tous ceux qui sont dedans soient vivants, confie Samuel Torres, 25 ans, contemplant l'amas de gravats de l'autre côté de la rue Alvaro Obregón, sur lequel s'activent des sauveteurs professionnels et des militaires. C'est là, au quatrième étage de ce bâtiment, où travaillaient quelques 70 personnes, que se trouvait le cabinet de comptable de son ami, Karen Nalelli Flores. Le même que celui de Karina Gabriela Albarán Luna, âgé de 30 ans. Son oncle Armando, le regard déterminé, parle pour sa sœur, trop émue pour témoigner. Des indices montrent qu'il y a encore des gens là-bas. Il paraît qu'elle est encore vivante. L'espoir est toujours là. Déjà, 28 personnes en vie ont été retirées de là, mais les autorités refusent de dire combien seraient encore vivantes. Gustavo Caballero, quant à lui, tourne le dos aux ruines de l'immeuble où il en est convaincu. Son père David, un électricien de 70 ans, est enterré vivant. « Mon père n'était jamais venu ici, dans le quartier branché de Roma, aux beaux immeubles anciens et aux places arborées. Mais il est venu installer des caméras de surveillance avec quelqu'un d'autre. Ils allaient sortir manger, mais son collègue est sorti un peu plus tôt pour payer le parcomètre qui finissait à 13h15 et mon père lui a dit « Vas-y, je te rattrape tout de suite », raconte Gustavo Caballero, la voix solide. À 13h14, la terre a tremblé sous le coup d'un séisme de magnitude 7,1. L'autre personne avait pris l'ascenseur et a réussi à sortir, mais mon père est resté en haut. Comme les autres proches, il garde confiance, le quatrième étage était le dernier. Alors, il n'y aurait qu'une dalle à lever. Nous n'allons pas perdre espoir. D'ailleurs, j'ai dit à ma mère, tant qu'on ne le ramène pas, on ne part pas. Pendant qu'il parle, les poings se lèvent derrière lui. Signal devenu universel en 2 jours dans cette mégapole de 20 millions d'habitants pour demander le silence et pouvoir ainsi peut-être capter les signes de vie. Moi, pour ces crimes, je ne signais rien. Le pape François, qui a souhaité hier que les prêtres condamnés pour pédophilie n'aient plus la possibilité de faire appel de leur procédure canonique. Le pape a aussi assuré qu'il n'accorderait jamais de grâce dans ce type d'affaires. Facebook va fournir au Congrès américain qui enquête sur une possible influence de la Russie sur l'élection présidentielle de 2016 des informations sur des publicités liées à ce pays publiées sur le réseau social a annoncé l'entreprise hier. Il y a 2 semaines, le groupe avait révélé que des centaines de faux comptes probablement activés à partir de la Russie avaient été utilisés pour acheter des publicités afin de nourrir des tensions politiques aux États-Unis avant et après l'élection présidentielle de 2016. Depuis, la pression montait autour du groupe pour qu'il fournisse le contenu de ses publicités au Congrès. « Je refuse que quiconque utilise nos outils pour saper la démocratie », a déclaré le fondateur et chef de la direction de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une déclaration en direct sur le réseau social hier. La pression internationale sur la Corée du Nord est brusquement montée d'un cran jeudi avec de nouvelles sanctions en vue, mais Kim Jong-un continue de défier le monde et a promis de faire payer cher à Donald Trump ses menaces de destruction totale de la Corée du Nord. « Je ferai payer cher à l'homme à la tête du commandement suprême aux États-Unis son discours appelant à la destruction totale de la Corée du Nord », a dit le dirigeant nord-coréen 2 jours après les propos belliqueux du président américain à l'ONU. La Turquie, l'Iran et l'Irak ont appelé jeudi les autorités du Kurdistan irakien à annuler le référendum d'indépendance prévu lundi, faute de quoi ils envisageraient de se concerter sur des mesures de rétorsion. Les chefs de diplomatie des 3 pays ont tenu une réunion mercredi à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle ils ont réitéré leur opposition sans équivoque au référendum au Kurdistan irakien. La quasi-totalité des pays, à l'exception d'Israël, se sont prononcés contre ce scrutin. L'opposition de la Turquie à l'indépendance du Kurdistan irakien est susceptible de compromettre la viabilité d'un éventuel État kurde, notamment parce que le Kurdistan irakien tire ses principales recettes de l'exportation du pétrole qui se fait par un oléoduc débouchant dans le port turc de Ceyhan. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils dépenseraient 575 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux victimes de famine dans des pays déjà touchés par des violences ou des guerres comme le Yémen, le Soudan du Sud, le Nigeria ou la Somalie. Avec ce financement supplémentaire, l'aide humanitaire totale dépensée par les États-Unis pour répondre à ces quatre crises est de 2,5 milliards de dollars depuis le début de l'année fiscale 2017, a annoncé l'Agence des États-Unis pour le développement international. Mark Green, le dirigeant de l'Agence des États-Unis pour le développement international, a fait cette annonce lors de l'Assemblée générale des Nations unies hier. Actualité artistique, la Société de transport de Montréal, STM, refuse que l'affiche d'un spectacle des grands ballets de Montréal soit placardée dans le réseau du métro, une première en 8 ans pour la compagnie artistique. C'est avec étonnement que le nouveau directeur artistique, Ivan Cavallari, a appris que l'affiche de Stabat Mater et la 7e symphonie de Beethoven, qui représente une femme maculée de sang et un clou qui transperce son pied, était censurée. Pour l'affiche, j'ai décidé de souligner l'aspect spirituel de la 7e symphonie. C'est une musique sublime qui élève l'âme à la limite qui peut faire pleurer. La photo représente la douleur, mais c'est une douleur générique, explique Cavallari. De son côté, la STM maintient que l'affichage doit respecter les normes canadiennes de publicité, ce qui n'était pas le cas de cette publicité. Dans le cas présent, il a été établi que l'affiche pouvait inciter à la violence. Il faut comprendre que la STM déplace un large public varié et nous sommes sensibles à cette réalité, souligne Amélie Régis aux affaires publiques de la STM. Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, FNC, a frappé un grand coup hier en annonçant que le film de science-fiction Blade Runner 2049 du cinéaste québécois Denis Villeneuve sera présenté en ouverture de la 46e édition de l'événement le 4 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Cette projection exceptionnelle aura lieu 2 jours avant la sortie du film en Amérique du Nord le 6 octobre. On ignore pour l'instant si Denis Villeneuve sera présent à Montréal pour l'occasion. La première mondiale du film a lieu le 3 octobre à Los Angeles. Et je vous ai lu une critique dans la presse du film Les Rois mongols. Cette fois, dans le Journal de Montréal, on nous parle du film, le nouveau film de Luc Picard, Les Rois mongols, qui a obtenu la faveur des cinéphiles du Festival de cinéma de la Ville de Québec, FCVQ, qui lui ont attribué le prix du public. Présenté lors de la soirée d'ouverture du 13 septembre, Les Rois mongols relate dans une Montréal secouée par la crise d'octobre 1970, les efforts de 4 cousins et cousines qui kidnappent une dame âgée pour éviter un placement en famille d'accueil. C'est la 4e année consécutive qu'un film québécois reçoit le prix du public au Festival du cinéma de la Ville de Québec. Le film de Luc Picard, qui prend l'affiche en salle vendredi aujourd'hui, succède à « Embrasse-moi comme tu m'aimes »,« Paul à Québec » et le documentaire « Un film de chasse de filles ». Dans la catégorie prix du public réservée à un long-métrage canadien, c'est le documentaire « Bagages » de Paul Thom qui a remporté les grands honneurs. Quelques suggestions dans Le Devoir sous la plume de Geneviève Tremblay. Du fait main partout. Si vous aimez le fait main et rencontrer les artisans qui ont conçu ce que vous achetez, c'est ce samedi que se tient le grand marché éphémère annuel de la plateforme en ligne Etsy. Une 40aine de villes au Canada ouvriront boutiques et proposeront des ateliers créatifs aux chineurs samedi et dimanche dans certaines villes. Etsy.com/faites au Québec ou Etsy.com/made in Canada. Clamont, Montréal, accueille dès ce vendredi les spectacles, performances et activités du Festival international de la littérature, le FIL. Parmi ses envolées, deux événements au long cours s'annoncent inspirants. L'intense cœur ouvert Open Heart, qualifié de plus long micro ouvert de l'histoire, hommage à la vie littéraire de Montréal qui durera, oui, 9 jours entiers. Et l'installation Pessoa, tout sentir de toutes les manières où des sculptures et des lectures enregistrées rappelleront la foisonnante activité littéraire de l'auteur portugais Fernando Pessoa, qui eut durant sa vie 72 hétéronymes, comme il appelait ses multiples soies de plumes. Micro ouvert du 22 septembre à 19h au 1er octobre à 19h au Sporting Club situé au 4671 boulevard Saint-Laurent. Pessoa tous les jours, sauf le 25 septembre, jusqu'au 1er octobre au Livard, 2980 rue Saint-Denis. Et pour avoir toutes les informations concernant le FIL, festival-fil.qc.ca. Désherbage, c'est le plus récent album de Tire le Coyote et Sylvain Cormier en parle en long et en large aujourd'hui dans la section week-end de musique. J'en lis un petit extrait. Désherbage, quatrième album studio de Tire le Coyote, Benoît Pinette au civil. Cinquième, si l'on compte le mini-album de 2009, ça m'inspire ce titre. Désherbage, désherbons, justement, il étend la haie, cache de l'herbe à poux et devient une sorte de mur vert empoisonné. Comprenez par cette métaphore que, jusqu'à tout récemment, Tire le Coyote, j'y arrivais pas. Blocage, ce trémolo dans la voix, ça m'énervait. La première fois que j'ai entendu Benoît Pinette chanter, c'était non. Et depuis, ça empirait, un vers, un mot, et je boursouflais de partout. Allergie. Or, il s'est trouvé qu'au premier festival Mile Legs End, Musique Montréal, début septembre, Tire le Coyote et ses musiciens, dont les guitaristes Simon Penneau et Benoît Villeneuve, dit Shampoing, montaient sur la scène du fond, jouxtant le viaduc Van Horn au moment même où j'arrivais sur le site. Je n'allais quand même pas repartir. J'ai donc écouté. Leur folk ne manquait pas d'allant et la voix n'était pas trop forte dans la balance des sons. De chanson en chanson, je ne pouvais pas nier que ces musiques étaient fichtrement bien fichues, ces textes remarquablement imagés, les émotions particulièrement justes, de sorte qu'en cours de route, je ne m'en suis même pas aperçu, le trémolo passait. Bien, vraiment bien. Instrument complémentaire. Tout ce béton du viaduc s'avait désherbé. Ne restait que le bon. Et Sylvain Cormier accorde 4 étoiles au plus récent disque de Tire le Coyote, Désherbage. Caroline Devernas se fait du porte-à-porte. L'actrice campe une vendeuse de cosmétiques à domicile dans Easy Living, premier long métrage prometteur du réalisateur et scénariste Adam Kelleman. Easy Living a pris l'affiche à New York cette semaine. Aux États-Unis, cette comédie dramatique indépendante est offerte en VOD sur iTunes, Amazon, YouTube et autres Google Play. Les Québécois devront toutefois s'armer de patience avant de pouvoir apprécier la performance magnétique de Caroline Davernas, car Easy Living n'a pas encore trouvé de distributeur au Canada. Allons-y avec la tournée des journaux régionaux dans le droit, un chantier d'amour pour la pédiatrie sociale. C'est Justine Mercier qui signe l'article. Le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, CPSG, se lance dans un imposant, entre guillemets, chantier d'amour afin de rénover au grand complet ses locaux vieillissants de la rue Notre-Dame, une aventure pour laquelle petits et gros dons seront les bienvenus, qu'ils soient en argent ou en main-d'œuvre. C'est dans le cadre d'une soirée organisée en l'honneur du grand mécène que le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, le président exécutif d'Énergie Brookfield, Richard Legault, que l'organisme a annoncé jeudi son grand projet de rénovation. L'entreprise de M. Legault nous offre déjà des dons majeurs chaque année. Et cette fois-ci, sa conjointe et lui nous ont offert à titre personnel 260 000 $, ce qui nous a permis de devenir propriétaires de notre maison de la rue Notre-Dame, a expliqué la docteure Anne-Marie Bureau, directrice clinique du CPSG, donc le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. L'immeuble érigé en 1946 a toutefois besoin d'une mise à niveau, tandis qu'un réaménagement des locaux est souhaité afin qu'il soit mieux adapté aux activités du centre. Bref, ça veut dire complètement démolir ce qu'on a, précise la docteure Bureau, en rappelant que le centre, qui n'accueillait qu'une cinquantaine d'enfants sur un seul étage à ses débuts en 2009, en reçoit maintenant quelque 550 sur les trois étages du bâtiment. Le CPSG a déjà la base de son plan de match, c'est-à-dire les plans ayant été conçus gratuitement par une firme d'architectes. La docteure Bureau ignore toutefois quelle sera la facture totale et l'échéancier des travaux, puisque tout cela se décidera en fonction des dons reçus. Il fait la une du Soleil, un pilote d'hélicoptère de Québec au cœur des ouragans. Article de Jean-François Néron. Au moment où le pilote d'hélicoptère Jean-Michel Dumont est parti aider les populations antillaises touchées par l'ouragan Irma, jamais il n'avait pensé subir lui-même la fureur de Maria qui a ravagé Porto Rico mercredi. Le chef pilote à l'emploi de l'entreprise de Québec, Élie Carrier, a décollé le mardi 12 septembre avec deux autres membres d'équipage à la demande du Federal Emergency Management Agency, l'Agence fédérale des situations d'urgence des États-Unis. Le rôle initial des trois hommes était de déployer les équipes d'urgence et de transporter vivres et divers matériels d'urgence dans des secteurs isolés des îles dévastées par Irma, de catégorie 5, notamment dans les îles Vierges des États-Unis. Jamais on ne pensait être pris dans un ouragan, confie au bout du fil M. Dumont, qui en est à sa première mission humanitaire en 13 ans de pilotage. Et pour une première, il a fait une entrée sur scène qui décoiffe. Au départ, Maria n'était qu'une tempête tropicale. On ne pouvait prévoir qu'elle se développe en ouragan de catégorie 5 en à peine 15 heures, rappelle-t-il. C'est la valeur la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson qui classifie l'intensité des ouragans. Avant que Maria ne touche terre à Porto Rico, l'équipe de M. Dumont pouvait encore quitter l'île ou rester dans la capitale, San Juan, où elle est basée. La majorité des équipes de secours sur place ont préféré la première option. Le chef pilote québécois et ses deux collègues avaient déjà fait leur idée. Nous voulions rester pour aider la population de Porto Rico à se préparer à l'arrivée de l'ouragan et pouvoir être prêt le plus rapidement possible à porter assistance après son passage. Nous avons fait un choix humanitaire, confie-t-il. Une fois la décision prise, il fallait prendre les mesures pour demeurer en sécurité durant l'ouragan. Nous avons mis l'hélicoptère dans un hangar, puis nous nous sommes réfugiés dans un hôtel près de l'aéroport. Nous étions prêts. Nous avions de l'eau et de la nourriture et l'hôtel où nous nous trouvions est construit pour résister aux ouragans, explique M. Dumont. Au plus fort des vents qui soufflaient au-delà de 250 km à l'heure, jamais il n'a craint pour sa vie. Je pensais plutôt à l'hélicoptère et je souhaitais que le hangar tienne le coup, précise-t-il. Au réveil jeudi, le paysage avait changé. La dévastation est pratiquement absolue, a d'ailleurs témoigné en pleurs la mairesse de la capitale, Carmen Yulin Cruz, dans un refuge, ajoutant que de nombreuses parties de San Juan sont complètement inondées. Il n'y a plus aucune feuille dans les arbres, les trois quarts des toits sont arrachés, 60 % de la capitale est inondée. Il y a des fils et des poteaux électriques partout sur les routes et il y a des bateaux dans les champs. C'est incroyable, confie le pilote. À l'aéroport, 60 % des hangars sont détruits. Mais quel soulagement a-t-il eu lorsqu'il a constaté que le bâtiment abritant le Sikorsky S-61 avait tenu le coup? Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs le même appareil qui avait permis de vider les bassins de la chute Jean-Larose en juin à Beaupré pour retrouver le corps de la jeune Maïté Vien. Lors de l'appel du soleil jeudi, M. Dumont et son équipe attendaient toujours une autorisation pour décoller, afin d'amener des équipes de secours dans l'est de l'île, rendue inaccessible par voie terrestre. La présence d'Élie Carrier devenait essentielle quelques heures après le passage de Maria, puisqu'ils étaient parmi les seuls à être demeurés sur l'île. Je peux vous dire que l'Agence fédérale américaine est très satisfaite du travail, conclut-il, visiblement fier. Une nouvelle vie pour un couvent, Gabriel Delisle, dans le Nouvelliste, contrainte de quitter le couvent du Cœur Maria de Trois-Rivières, les Filles de Jésus ont accepté que leur imposant bâtiment du boulevard Saint-Louis soit transformé en résidence pour personnes âgées à faible ou à moyen revenu. Cette conversion réalisée par les Habitations populaires du Québec sera faite au coût de 8 millions de dollars et permettra d'aménager 73 unités d'habitation. Cette décision de vendre le bâtiment est mûrie depuis longtemps. Voyant l'avenir qui se dessine, on a de moins en moins de personnel et les sœurs sont de plus en plus âgées. C'est difficile de faire la gestion de ces grandes maisons. C'est ce qui a motivé la décision de passer à autre chose, avoue Gisèle Lacerte, vice-provinciale de la Congrégation des Filles de Jésus, qui est consciente qu'une page de l'histoire de Trois-Rivières se tourne. Malgré le choix très difficile, les religieuses acceptent cette réalité. N'empêche qu'elles ont vécu toutes sortes d'émotions lorsqu'elles ont accepté de se départir du vaste bâtiment du boulevard Saint-Louis. Elles ont un pincement au cœur de devoir vendre la maison où elles sont depuis toujours, mais nous sommes heureux de ce projet. Voilà, c'est tout pour les voies de service quotidien. Je vous souhaite un bel automne à l'avance et une fin de semaine caniculaire merveilleuse. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Et on se retrouve, je l'espère, lundi. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. À très bientôt.